Ça fait beaucoup de candidats, d'autant plus que on a l'impression quand même que le président sortant, Marc Ravalomanes, a pas mal de cartes dans son jeu pour se faire réélire, si ce n'est au premier tour, en tout cas au second tour. Donc une bonne partie de ces candidats seront des candidats de témoignage ou des candidats quasi folkloriques, et bon, il n'y en aura que quelques-uns qui auront un score significatif et représentatif à l'échelon national et dans la capitale.
Vous employez le terme folklorique, vous ne pensez pas à l'opposant qui devait rentrer?
Non, c'est un peu différent, c'est l'ancien vice-premier ministre du régime précédent qui a vécu en exil en France depuis la crise de 2001-2002, et que le régime empêche de se présenter, en fait, de facto, puisqu'il a été dans un premier temps condamné par contumace pour détournement de fonds, par la justice malgache, bon, qui n'est pas quand même une justice qui a une tradition énorme d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Et puis là, bon, il y a un certain nombre d'obstacles qui lui sont mis, ce qui est assez grand guignolesse, puisqu'il a été condamné par la justice. Logiquement, on ne devrait pas l'empêcher de rentrer, on devrait plutôt l'attraper, le mettre en prison. Mais du coup, on a affaire à un régime qui tend à prendre certaines dispositions qui relèvent quasiment de l'autoritarisme.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, la crise de 2001-2002, les dernières élections présidentielles avec des grosses agitations en Madagascar. Est-ce que c'est quelque chose que les habitants de Madagascar ont encore en mémoire aujourd'hui?
Je pense que c'est quelque chose que les gens ont en mémoire, mais c'est aussi à cause de ça quelque chose qui risque peu de se reproduire avec la même ampleur. On peut dire que grosso modo, à Madagascar, il y a ces dernières décennies, on a des cycles d'éruptions de manifestations sociales d'ampleur tous les 10 ans, 10-12 ans, quoi. On n'en est pas là. Le dernier, donc, date de 2001-2002. On a probablement une forte partie de la population qui avait énormément d'espoir sur le changement de 2002, qui aujourd'hui est revenue là-dessus, votera peut-être contre le président ou s'abstiendra, mais manifestera d'une certaine manière son mécontentement. Mais je ne pense pas que ça puisse provoquer, susciter des mobilisations de l'ampleur de celles qui ont eu lieu en 2001-2002.
Reste qu'aujourd'hui, Madagascar, sur le plan économique, est toujours l'un des pays les plus pauvres du monde.
Parce que, je veux dire, l'agitation politique, d'abord, reste quand même très mesurée à Madagascar. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner par rapport à d'autres pays du continent africain où on assiste à des affrontements beaucoup plus violents. La plupart de cette agitation-là reste dans un cadre acceptable de fonctionnement normal d'un système ressemblant à une démocratie. Mais effectivement, les grands problèmes économiques du pays ne sont pas solutionnés. C'est des problèmes de sous-développement, des difficultés de transport et donc de problèmes d'infrastructure dans le pays, des problèmes d'extrême pauvreté. Tout ça, c'est absolument pas solutionné parce qu'on a toujours quand même une classe dominante, quelle que soit son appartenance politique, et qui reste assez prédatrice par rapport à la population locale et à l'économie. Je crois que sur le plan politique, on ne peut pas s'attendre à d'énormes catastrophes politiques dans les mois à venir. Sur le plan économique, la voie est longue devant le pays pour qu'il puisse effectivement enclencher un processus de développement économique durable. Et est-ce que les conditions aujourd'hui du marché international laissent une place à Madagascar? C'est une grande question qu'on est en droit de se poser.